Europe 1.
Et si vous pouviez trouver tous les équipements de sport éco-responsables et made in France en un seul et même endroit, eh bien, c'est possible. Pour savoir où, vous restez avec nous. À tout de suite. Une question cet après-midi dans La France bouge. Le sport peut-il être durable? Et la réponse est oui. Il suffit d'écouter nos invités, Raphaël. Pour agir ou leur poser des questions, il y a le hashtag Europe 1 sur Twitter. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921. Vous aimez la nature, vous y baladez, faire du sport, mais vous aussi, vous aimeriez pouvoir être en totale harmonie avec elle et ne pas utiliser de matière qui la pollue. Pour ça, eh bien, il existe une plateforme et c'est My Green Sport. Bonjour Nathalie Jacquino.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices de cette boutique en ligne qui recense en fait le matériel éco-responsable et made in France. Racontez-moi comment est née l'idée. Vous êtes, je suppose, sportive vous-même.
Oui, surtout les sports outdoor, la randonnée dans la nature. Et en fait, c'est ça qui nous a motivés, c'était le contact avec la nature et de se dire qu'on aime bien, quand on fait du sport, se faire du bien à soi-même. Mais en fait, il faut aussi respecter l'environnement dans lequel on est. Et on a du coup choisi de faire cette plateforme pour rassembler des équipements sportifs qui respectaient ces valeurs et pour permettre en fait aux sportifs de mieux choisir leurs équipements quand ils veulent pratiquer une activité.
Racontez-moi, comment vous avez fait? Vous les avez démarchés? Vous avez fait du porte-à-porte pour les trouver, oui, ces fameux fabricants éco-responsables et made in France?
Et on continue toujours. Oui. En fait, on en a rencontré beaucoup dans des salons. Et sinon, bah, c'est du phoning. Et puis, c'est d'essayer de rencontrer les fabricants pour avoir un meilleur contact avec eux. Et on travaille avec des grosses marques et des petits artisans. Donc, c'est savoir s'adapter à chacun. Et voilà. Et essayer de mettre en valeur leur action.
Justement, vous allez voir les artisans, les petits artisans, vous leur faites faire des collections, des petites collections, des petites séries. C'est important aussi d'avoir ce choix-là?
Oui, parce qu'on se dit qu'en fait, on est sur du matériel un peu d'exception. Et que
par exemple,
beaucoup de, bah, par exemple, des skis qui ont été faits à l'image du site qui est représenté par un guépard. On a aussi des petites collections de skate et en fait quand on fait du sport on a aussi envie d'avoir du matériel qui soit personnalisé et de travailler avec des petits artisans, c'est ce que ça permet de faire, d'avoir des pagaies aussi qui soient vraiment à sa mesure quand on fait du stand-up paddle et voilà, de pouvoir choisir ben, suivant sa morphologie ou suivant ses couleurs.
Combien est-ce que vous avez réussi à référencer de marques aujourd'hui?
Alors on en a une cinquantaine à peu près. Mais il y en a certaines avec qui on travaille de manière directe et d'autres où on renvoie vers d'autres sites pour acheter parce qu'on n'a pas de stock. En fait, on travaille en dropshipping avec les marques.
Donc vous prenez les commandes et vous les renvoyez directement à la personne qui fabrique.
Exactement.
Et c'est elle qui va se charger de l'expédition.
Voilà. Et nous, on fait tout l'intermédiaire. Par contre, s'il y a un problème de SAV ou s'il y a un problème, ce qu'il n'y a pas en général, parce qu'on essaye de sélectionner des produits qui soient aussi durables dans le temps.
Comment est-ce que vous vous financez justement? Qui
Alors,
vous
rétribue? C'est le fabricant, puisque le tarif de vente est le même si vous l'achetez chez le fabricant ou chez nous. Et du coup, on négocie des marges suivant le produit ou suivant le mode d'acquisition. En fait.
Vous avez le sentiment que les choses ont évolué ces dernières années? Vous trouvez de plus en plus d'offres?
Alors, on trouve de plus en plus d'offres et surtout, l'intérêt du public a beaucoup évolué. On s'est lancé en 2016 et à ce moment-là, par exemple, les termes déco-responsables sur Internet ou déco-friendly, on les trouvait, mais pas beaucoup. Et il n'y avait pas de recherche. Alors que maintenant, il y en a de plus en plus de personnes qui cherchent du matériel éco-responsable dans tous les aspects de la vie, de toute façon, que ce soit l'alimentation...
C'est quelque chose qui est important, de plus en plus important, Éric Le Maire, hein, cette éco-responsabilité et ce Made in France par ailleurs.
Bien sûr, dans les études qu'on regarde, j'en ai vu une là, récemment, il y a 65% des consommateurs qui sont prêts à changer de marque si la marque n'est pas engagée, ne montre pas du sens ou n'est pas respectueuse de l'environnement. Donc je pense que vous tapez dans le bon truc au bon moment, parce que c'est aussi une histoire de moment. Non, j'ai vu votre philosophie, c'est presque une raison d'être, protégeons notre plus beau terrain de jeu, la nature. J'ai trouvé ça formidable. Et puis par contre, j'ai vu aussi que vous vendiez, je crois, des trottinettes électriques, ou vous les proposez, il me semble.
Alors oui, mais parce que c'est de la mobilité urbaine, les trottinettes qu'on vend principalement, elles sont fabriquées dans le sud. Donc,
non, mais je n'ai rien contre la fabrication, oui, oui. C'était juste sur la prévention. Je voulais lancer à nouveau un appel sur... Faites attention, portez un casque, ne soyez pas deux sur la trottinette, ne téléphonez pas, parce que les résultats de l'étude qu'on a réalisé récemment, malheureusement, ce n'est pas très engageant et c'est un vrai danger, c'est tout.
Il y a aussi qu'on n'a pas tout à fait la même utilisation quand c'est sa propre trottinette que quand c'est,
ça, c'est, vrai
que quand c'est une trottinette qu'on a
ça,
en location.
C'est un autre sujet, mais c'est vrai.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Est-ce que vous pourriez, par exemple, dupliquer le principe de cette plateforme ailleurs? Alors, peut-être pas avec du Made in France, mais aller en Italie avec du Made in Italie, aller en Suisse avec du Made in Suisse.
On est à 50% pour l'instant sur le Made in France. Donc 50% des produits qu'on propose sont, le sont et les autres non. Mais on essaye de garder quand même une fabrication européenne dans la plus grande partie des cas. Et après, pour l'instant, les objectifs de développement, ils sont plutôt sur la France, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire encore.
Il y a des produits qui vous manquent aujourd'hui et que vous aimeriez pouvoir référencer ?
Oui, oui, on est toujours en recherche de nouveaux produits.
Par Alors, exemple, qu'est-ce que vous ne trouvez pas ? On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui va vous les proposer.
Et ben sur ce qui est surf, en fait, notre partenariat s'est arrêté parce que le fabricant s'est arrêté. Donc on aimerait bien retrouver un fabricant de surf et de matériel wakeboard, enfin matériel
de
glisse.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une marque française de sport durable. On va voir, elle est peut-être déjà référencée.
Peut-être,
là.
Elle s'appelle Picture Organic Clothing. Vous connaissez ?
Oui.
Ah, très bien. C'est une enseigne française qui propose une collection composée à 100% de produits issus de matières recyclées, biologiques, biosourcées, des vêtements en coton biologique. Donc, qui dit coton biologique dit pas d'OGM, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Ce sont des produits techniques composés d'environ 50% minimum de polyester recyclé issu de bouteilles en plastique. Les chutes de tissus issues des productions des usines sont intégrées dans les doublures des vestes. Et cette marque est spécialisée dans les sports de glisse.
Et puis vous avez trouvé aussi une association pour un sport zéro déchet.
C'est une recyclerie, la recyclerie sportive. C'est une association qui remet sur le marché des équipements sportifs de seconde main et propose des ateliers pour réparer son vélo avec des pièces de réemploi. Donc tout est fait pour un sport zéro déchet. On y voit des rayons de vêtements, des rayons de chaussures, du matériel pour pratiquer les nombreux sports. Ça ressemble exactement à un magasin, mais tous les articles proposés sont issus de la collecte, une collecte venue de dons des particuliers, de fédérations sportives ou d'enseignes spécialisées. Et ensuite, ils trient, ils font une éventuelle remise en l'état. La recyclerie sportive.
Il y a en ce moment le Global Sports Week qui se tient. Hein, c'est un premier événement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va fédérer, justement, qui va permettre de nouvelles rencontres et peut-être d'aller plus loin dans ce que vous faites tous les trois, Bertrand Picard ?
Oui. J'y étais ce matin et hier, c'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas à un tel succès. En plus, c'est international.
Oui, c'est une première, hein, en plus.
En plus, c'est international, il y avait beaucoup de monde qui venait de partout. Et le sujet de l'environnement est central, il y avait encore une conférence ce matin sur le sujet. Et il y avait les Innovation Awards de la FFF, dont une thématique entière est sur l'environnement. Donc oui, je pense.
C'est sur le bon créneau, apparemment.
Voilà.
On se rend compte que les choses sont en train de bouger. Vous êtes d'accord, Emmanuel Schiltz ?
Absolument, complètement, oui.
Même chose de votre côté, vous sentez qu'il y a une prise de conscience ?
Oui, et puis il faut qu'on se regroupe. Il y a aussi des associations qui essayent de se regrouper autour du sport responsable. Et ça permet de faire travailler les acteurs entre eux.
Et du côté des sportifs, même du côté des athlètes, vous ressentez une demande aussi ?
Nous, on n'est pas trop avec les on est avec les sportifs, mais pas de haut niveau.
Non, mais même ça reste sportif.
Oui, oui. Mais voilà, mais c'est une envie qu'ils ont soit d'avoir du Made in France, soit d'avoir de l'éco-responsable.
On vous le demande.
Oui.
On reste ensemble et on continue à parler sport et environnement aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend, hein, 3921, Twitter, hashtag Europe 1. Venez nous dire ce que vous pensez de cette évolution, justement, pour parler sport et durabilité avec nous sur Europe 1. Europe 1.
On parle de sport et d'écologie cet après-midi dans La France Bouge et on en parle, Raphaël, avec vos invités.
Nos invités, Bertrand Picard, fondateur et président de Natural Grass, une pelouse hybride éco-conçue, Emmanuel Schiltz, fondateur de Natural Peak, vêtements techniques éco-durables, et Nathalie Jacquino, cofondatrice de My Green Sport, plateforme qui recense du matériel de sport éco-responsable. Notre coach aujourd'hui, c'est Éric Lemaire, directeur de la communication de la marque et de la RSE chez AXA en France. Évidemment, à mes côtés, Elisabeth Assayagela. Tiens, Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une initiative intéressante, un terrain de foot d'un nouveau genre du côté de La Ciotat.
Mais oui, une alternative locale et durable, un terrain synthétique. Vous savez, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est fait de petites fibres qui imitent la pelouse en plastique et en granulé. Mais à La Ciotat, ils ont élaboré un terrain de foot encore synthétique, donc encore en plastique, mais les granulés sont désormais des noyaux d'olives concassés. C'est très sérieux. Il a fallu 60 tonnes, c'est-à-dire 60 millions d'olives récupérées chez les producteurs en Provence. Et le noyau, lorsqu'il est pressé pour faire de l'huile, il ne sert à rien. Donc eux, ils se sont dit, on va s'en servir. Et les noyaux sont donc lavés, séchés et concassés. Et ça en fait un tout nouveau terrain de foot.
Ouais, c'est le bon endroit, hein, la c'est Provence, bon endroit pour aller chercher effectivement les noyaux. Vous connaissiez Bertrand Picard ?
Oui, je connaissais. Ça reste du synthétique, mais c'est vrai que le remplissage est quand même plus vertueux.
Oui, c'est ça. On n'est plus dans le plastique et dans les pneus recyclés.
Alors, est-ce que nous avons des réactions sur Twitter,
oui,
Céline ?
Oui, on a Catherine, hashtag Europe 1, une réaction pour la marque Natural Peak qui dit « Ce qu'il y a de bien avec les vêtements Natural Peak, c'est le côté anti-odeur. On les lave moins souvent et on utilise moins d'eau. »
Oui, côté très, très respirant hein, de ces matières naturelles. Et puis, alors, je le précise aussi, le produit, il est gratté à l'intérieur, donc ça ne bouloge pas.
Pas tous,
mais c'est pour certains.
Certains sont grattés pour des raisons thermiques, en fait, ou en gardant le même grammage, en fait, ça va donner un aspect un petit peu plus polaire. Donc le tissu va contenir un petit peu plus d'air, donc plus d'isolation. Donc on gagne en gros une dizaine de pourcents, 10-15% de chaleur, juste en grattant le produit.
Là, vous nous avez amené des hauts.
Oui.
Est-ce que vous travaillez les bas ? Est-ce que vous travaillez tous les types de vêtements ? La chaussette, par exemple, c'est quelque chose
non,
sur lequel vous...
Là, ça va être la chaussette, notamment, va être une autre industrie, d'autres usines. Donc, pour l'instant, on reste sur ce qu'on sait
pour
faire.
Pour l'instant,
oui, mais on a tout sous le coude.
Mais l'ambition, c'est quoi ? C'est vraiment d'aller fournir tous les types de sports sur la totalité de l'équipement,
oui,
en tout cas vestimentaire.
Oui, sachant que de par les problématiques, enfin les difficultés techniques qu'on a aujourd'hui, voilà, on est... Moi, je veux pour l'instant, en tout cas, pas utiliser de matière synthétique. Et donc, on se contente de fabriquer en fait des produits, ce qu'on appelle uniquement de première couche, puisque en fait, tous les produits de seconde ou troisième couche qui vont être windstopper, déperlant, nécessitent pour l'instant des produits synthétiques.
Pour l'instant, on ne sait pas remplacer.
Voilà. Pas à ma connaissance, en tout cas.
Notre coach, Éric Lemaire.
J'ai vu que vous vendiez, vous étiez partenaire avec l'ESF, l'école du ski français. Vous faites quel type de vêtements pour...
Alors, on n'est pas partenaire, on est en fait, ils distribuent nos produits, puisque je suis moi-même moniteur de ski.
Oui.
Voilà, mais on n'a pas de... Voilà, mais effectivement, on a tout simplement une série de, comme vous pouvez, on a là, qui sont logotés, en fait, école de ski français, absolument.
Vous êtes prêt à faire des combinaisons de ski, éventuellement, au niveau thermique ça protège.
Pour l'instant, c'est ce que je disais, non.
Alors, l'intérieur de la combinaison, mais pas l'extérieur, peut-être, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ça peut être effectivement une déclinaison, tout à fait. Ouais.
Nathalie, oui. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de produits, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait finalement l'équipement total fait en France, éco-conçu ?
Encore de la recherche, et puis c'est vrai que c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les marques de vêtements avec qui on a travaillé jusqu'ici, il y en a deux ou trois, ce qui représente la moitié à peu près, qui ont fermé entre-temps parce que des problèmes pour faire connaître la marque, pour changer les habitudes aussi, parce que c'est vrai que quand il y en a que sur un t-shirt, ça marche toujours mieux pour l'instant. Et donc, il faut vraiment faire changer plus globalement les mentalités.
Oui, et ça passe peut-être justement par l'image des sportifs de haut niveau. Est-ce que justement ces sportifs de haut niveau viennent vers les marques et essayent d'accompagner des marques qui démarrent, Bertrand Picard ?
Alors, c'est encore assez rare, mais je prenais un exemple tout à l'heure. C'était l'exemple de Mbappé qui a la marque Good Goût. Donc,
Compote voilà. Made in France qu'on a reçue ici sur Europe 1.
Exactement, j'ai trouvé que l'histoire était assez jolie. Il s'intéresse à très peu de marques, il est bien sûr très prisé, mais là, il a dit ça, ce projet, j'y crois, c'est génial et j'y vais.
Oui, parce que c'est une compote qui est totalement naturelle.
Hein. Exactement.
Poire, pomme et mangue de mémoire, je crois.
Et apparemment, sa maman, toute son enfance, lui a dit, si tu veux un jour être un pro au football, il faut que tu manges des purées et des compotes. Donc, il pense que c'est une vraie mission pour lui de porter ça.
Mais vous pensez effectivement que les sportifs peuvent véhiculer le message pour vous, en tout cas pour vous aider à aller vers ce matériel éco-responsable et durable?
C'est effectivement, à mon avis, un des meilleurs moyens de communication.
Devenir ambassadeur.
Voilà. Maintenant, j'ai, à titre personnel, ça n'engage que moi, le sentiment que plus on va vers le haut niveau, et moins ils sont sensibilisés. Alors, il y a toujours les exceptions, les gens, même s'ils le sont au fond d'eux-mêmes, mais voilà, il y a aussi un phénomène économique qui fait qu'on ne va pas forcément vers les petites marques qui se lancent et qui essaient justement de trouver des solutions écologiques. Et puis, pour des raisons économiques, on va avec les gros pour... Voilà.
Éric Lemaire.
Pour compléter son salaire de joueur de foot de 8 millions d'euros, donc on a bien vu ça tout à l'heure en juin.
Ça, c'est celui de Lionel Messi. Hein. Tout
ouais,
le monde
c'est
n'est
vrai,
pas
y en a
8 millions.
Oh. Non, moi, Bertrand Picard, je voulais vous poser une question sur la pelouse des particuliers, parce que je suis en train de refaire la mienne. Je me demandais si ça pouvait fonctionner, parce que ça absorbe le carbone, il y a la photosynthèse, enfin bon, il y a tout pour réussir dans les entreprises, les parquets jardins et chez les particuliers. Qu'est-ce que vous attendez ?
C'est vrai, alors, je ne vous cache pas que la plupart de mes amis qui ont un jardin m'ont demandé de venir refaire leur jardin.
Et vous l'avez fait ?
Non. Non, pourquoi ? Parce que, en fait, ce mode de distribution, on ne sait pas encore faire, avant tout parce qu'il y a beaucoup de manuels. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en direct par des paysagistes qui, eux, peuvent refaire la pelouse en utilisant nos matériaux. Et il y a un certain nombre d'exemples à Paris... De pelouses qui ont été faites comme ça. Donc oui, c'est possible.
On se posait la question avec Elisabeth et Céline, forcément en tant que maman, les écoles, c'est quelque chose que vous envisagez ?
Voilà, les écoles, au sens large, les grands projets d'urbanisme vert nous intéressent. Récemment, je ne sais pas si vous êtes allé sur le nouveau Longchamp, tout autour du nouveau bâtiment, il y a des pelouses qu'on a faites et qui sont utilisées toute l'année pour faire des soirées, des fêtes, des concerts, des défilés de mode. Des pelouses naturelles très résistantes dans la ville, c'est un nouvel usage, je pense, qui est intéressant.
La suite, c'est quoi ? Alors, vous nous avez parlé de la tondeuse, vous avez déjà les projets que vous allez inventer en tête ou pas ?
Alors, on a ce brevet qu'on vient de déposer, maintenant il faut faire le produit sur la base de ce brevet, qui est une pelouse qui va réduire jusqu'à 80% la consommation d'eau, étendre vers le zéro fongicide, pesticide, le zéro artificiel. On est d'ailleurs soutenu, vous parliez des JO, on est soutenu par le fonds d'innovation des Jeux Olympiques. Donc l'objectif, c'est de pouvoir construire les pelouses des JO avec cette technologie.
Eh bien, on regardera ça de près. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus nous rendre visite aujourd'hui dans les studios de La France Bouge.
Merci beaucoup. Merci.
Il est 13h48. Europe 1. On reste ensemble, puisque les sportifs, je suis sûre, connaissent. Depuis 1992, cette entreprise s'est lancée dans l'alimentation pour tous ceux qui partent en trek ou en randonnée. C'est Falière Nutrition et c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Falière Nutrition, qui est née en 1992. Bonjour Jeanne Falière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci sur Europe 1. Vous n'étiez pas du tout dans la nutrition pour sportifs au départ. Vous étiez dans le social et votre mari a fait les beaux-arts. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, vous changez de vie ?
L'idée qui a guidé, c'est la passion des grands espaces. C'est là où nous nous sommes rencontrés à l'origine et qui nous a amenés à faire cette démarche. Donc, on était aussi dans une entreprise qui faisait de l'agroalimentaire, mais dans la gastronomie. Et puis, on a eu envie de revenir à nos passions premières et de trouver un lien donc, entre l'alimentaire et comment on fait pour se nourrir dans ces espaces où on est en autonomie alimentaire totale.
Oui, parce que vous avez fait beaucoup de trek, notamment en Mongolie, en France aussi, en Algérie. Et c'était toujours la difficulté, c'est s'alimenter correctement.
Voilà, s'alimenter correctement, c'est-à-dire avoir le bon apport protéique, protique, le bon apport nutritionnel, donc l'énergie, et surtout le porter. Quoi. Quand vous êtes en autonomie, vous portez quelquefois une semaine de votre autonomie alimentaire dans le dos. Donc il faut que ce soit léger, dont la technologie, c'est la lyophilisation.
Donc vous commencez à réfléchir à des recettes. Quelle est la première ?
La première devait être un curry de pâtes, je pense, avec du poulet. Donc on a, qui est une recette un peu classique, c'est d'ailleurs c'est resté un grand classique et on l'a encore aujourd'hui dans notre gamme. Et donc on a commencé par ça, par quelques petites recettes et puis on les a élargies au fur et à mesure.
Vous les avez testées d'abord à la maison ?
Testées à la maison, testées en situation, parce que c'est très important quand vous faites ce type d'alimentation d'aller le tester là où vous êtes, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à une alimentation avec quand vous faites un effort, quand vous êtes en situation d'effort, est-ce que vous aurez plus faim quand vous aurez fini de manger, est-ce que vous le trouverez aussi bon que dans le laboratoire ou dans votre petite cuisine, donc c'est des points très forts pour valider une recette, effectivement.
Vous validez la recette et puis après, il y a l'étape importante de la lyophilisation.
Oui.
Parce que ça, c'est tout un art aussi, toute une maîtrise à avoir.
C'est toute une technologie. En fin de compte, c'est une technologie qui peut paraître obscure. Qu'est-ce que c'est ? C'est chimique, etc. Or, c'est très simple. En fait, la lyophilisation, c'est juste de la sublimation. Je trouve que le mot est très joli. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève l'eau du produit. On l'enlève par une méthode très douce, sans toucher aux cellules de l'aliment. Donc, quand vous lyophilisez une framboise, quand vous lyophilisez n'importe quel ingrédient alimentaire, vous lui gardez toute sa forme.
Vous lui gardez toute sa forme et du coup, vous allez commencer à développer des recettes pour qu'on puisse partir dans notre sac à dos avec tout un tas de choses plus gourmandes les unes que les autres. Je pense par exemple au riz au lait.
Oui.
Ou alors à la mousse au chocolat.
Oui.
Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'élargir la gamme ? On peut tout faire, on peut tout embarquer dans les petits lios aujourd'hui ?
Ben, on peut tout embarquer parce que notre alimentation, c'est entre 60 et 80% d'eau. Donc notre métier, c'est d'enlever cette eau. Donc on peut lyophiliser à peu près ce que l'on veut, sauf des corps très gras et des corps très sucrés. Un raisin, par exemple, très sucré devient un miella, donc on ne peut pas le lyophiliser. Le reste, on peut tout lyophiliser. Donc après, bah, c'est juste une question d'inspiration, de mouvance, de produits qui plaisent et des saveurs qui sont agréables.
Et puis, vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont suivi aussi, qui sont des aventuriers de renom. On pense à Yves Parlier, on pense à Nicolas Vanier.
Oui, tout à fait. Donc ça, Yves Parlier, c'était au tout début de notre aventure dans les années 90. À un moment donné, où il a d'ailleurs dématé dans l'océan et où il a été dans des conditions très difficiles et où il s'est servi des sachets de lyophilisé pour faire un appât pour attraper les poissons. Donc ça, c'est la petite anecdote. Mais nous, ces aliments peuvent mener à tout et servir vraiment dans les conditions extrêmes.
Notre coach, Éric Lemaire.
Oui, moi, j'entends les recettes de pâte au curry ou le riz au lait,
ça
je me dis
faim.
Que... J'ai vu que vous travaillez pour les militaires. Donc, je me suis dit, mon Dieu, dans ma préparation militaire, on mangeait des boîtes de conserve absolument dégoûtantes, qu'on appelait du singe. Donc, je me mettais à rêver qu'on aurait pu bénéficier de vos produits. Non, moi, je voulais poser une question sur les associations humanitaires, parce que j'ai vu que vous travaillez avec les Restos du Cœur et d'autres. Qu'est-ce que vous faites avec eux, justement ?
Alors, les associations humanitaires, on a plus une action au niveau de nos surplus, au niveau de de récupération des déchets, pour être dans un cercle vertueux et pas envoyer nos déchets simplement en recyclage. Voilà. Donc, on est plus dans ce cercle vertueux.
Vous êtes une PME, vous êtes toujours basée dans les Landes. Hein
oui, dans le parc naturel des Landes de Gascogne.
Et alors, évidemment, dans un endroit comme ça, vous avez eu à cœur aussi de vous intéresser aux produits sans additifs, sans colorants, quelque chose de plus sain, parce que c'est aussi la tendance. C'est ce que vous faites avec les petits lios.
Voilà, alors la gamme Les Petits Lios garde la technologie de la lyophilisation. En fait, la lyophilisation, il n'y a ni besoin d'ajouter d'adjuvants, de colorants, de conservateurs. On enlève l'eau et donc le produit est stable et peut se garder. Et l'idée, c'est de l'élargir au monde urbain, puisqu'en fin de compte, on peut aussi croquer des framboises lyophilisées, on peut croquer des petits légumes en apéritif, on peut avoir un plat qui est là où on ne répond pas à un apport calorique, c'est-à-dire quand vous êtes au bureau et que vous voulez manger un petit plat, vous n'avez pas besoin d'avoir vos 500, 1000 kilocalories, mais par contre, vous avez besoin d'un plat très gourmand. Et là, on est dans une région quand même du bien-être, du bien-vivre. Donc, on peut vous faire des pâtes avec des cèpes, on peut vous faire des gambas au lait de coco, on peut faire des choses gourmandes qui répondent à d'autres besoins.
Oui, bon, comme le snacking, effectivement,
voilà.
ou ce genre de choses. J'ai remarqué aussi que vous aviez étudié les plats en fonction des endroits où vous les vendez, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre la même chose à un Français ou à un Allemand.
Tout à fait. On est quand même sur une niche de produits, une niche de marché, et notre attention majeure a toujours été de répondre à ce que le client attendait, dans son format, dans le poids, dans l'apport calorique, dans selon si vous êtes dans les déserts chauds ou si vous êtes au pôle Nord, vous n'avez pas les mêmes besoins d'apport calorique, selon si vous êtes en pays nordique ou si vous voulez la cuisine française, c'est différent. Donc on a toujours été très sensible de correspondre répondre aux besoins de nos clients.
La suite, c'est quoi? Toujours plus de développement à l'international, Régène Fallière?
Oui, la suite, bah, en 2014, on avait 0% de notre chiffre d'affaires à l'export.
Aujourd'hui,
on a 25% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et aujourd'hui, on veut élargir notre gamme vers une gamme plus urbaine, plus pour les gens de tous les jours, qui sont, ça peut être une solution d'alimentation sur le pouce, et d'où notre gamme Les Petits Lios pour répondre.
Quels sont les pays qui sont les plus appétants, ce type de produits, selon vous?
Alors, les pays du Nord, tous les pays scandinaves et les pays du Nord sont très au fait de la lyophilisation et des aliments lyophilisés. Et aussi les États-Unis, où là, c'est un produit qui est complètement répandu.
Moins en France? Moins on y vient.
Ça vient, oui, vraiment, ça vient. Parce que quand on fait la différence entre, par exemple, une rondelle de banane lyophilisée et une rondelle de banane déshydratée, il n'y a pas photo, quoi. Vous avez la saveur de la banane presque comme si elle était fraîche quand vous l'avez lyophilisée, et vous avez quelque chose de tout sec si c'est déshydraté, quoi. Donc, c'est un vrai intérêt.
Merci beaucoup d'être venu nous parler, justement, Régène Fallière, de Fallière Nutrition. 30 salariés, une centaine de produits et beaucoup d'autres à venir pour ces aliments lyophilisés qui vont nous accompagner bientôt au quotidien, peut-être au bureau.
Et vous ne savez pas, c'est une très bonne idée.
On va les tester, évidemment. Merci à Éric Lemaire qui était avec nous pour la première fois. On était ravis de vous avoir comme coach aujourd'hui pour AXA. Elisabeth.
Très bonne fin de semaine, Raphaël.
Très bonne fin de semaine. On se retrouve très vite.
On se retrouve très bientôt.
À très vite.